Jésus, nous te remercions pour ce temps ensemble sous ton regard. Seigneur, nous nous attendons à te voir agir. Nous croyons dans le ministère du Saint-Esprit. Nous croyons, mon Dieu, que tu as toujours un mot à dire dans n'importe quelle situation. Seigneur, donne-nous de comprendre ce que tu as à nous dire. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la sagesse de l'appliquer. Et en toute chose, nous te rendons la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais saluer les amis internautes qui nous rejoignent à l'instant. Nous avons eu un très bon moment de louange. Et, ça fait tellement du bien. C'est extraordinaire. Tout ce que nous avons chanté, c'était une bonne nouvelle. Vous avez remarqué? c'est important. Pasteur Marc l'a dit tout à l'heure, mais... il y a Mobilisation France 19. Donc, réglez vos smartphones. Et 19 nous parle de 19h, Covid-19, 19h. À 19h, eh bien, nous prions, nous élevons notre pays, nous élevons l'Europe, nous élevons tous ceux qui ont des responsabilités pour gouverner notre pays, y compris jusqu'au maire des villes. Nous prions pour toute la liste que je vous ai suggérée et plus, parce que nous avons notre part à faire et notre part est de prier. Donc à 19h, ça n'a pas besoin d'être long. Hein. Encore une fois, on n'a pas besoin de se mettre dans un coin. Mais hop, à moins 5, mon smartphone sonne, me rappelle que dans 5 minutes, je vais prier avec tous les autres chrétiens. Donc faites passer le mot et que partout en France et ailleurs, hein, en Suisse également, ils peuvent le faire pour leur pays, etc. Et nous allons présenter au Seigneur cette situation. Nous croyons que notre Dieu va nous sortir de là. Alors, peut-être que certains se diraient, mais pasteur, pourquoi as-tu gardé l'église ouverte? Alors oui, effectivement, c'est ce que notre premier ministre nous a dit, les cultes sont ouverts. Et également, pourquoi? Parce qu'il y a différentes manières d'exprimer sa foi. Il y a des personnes qui disent, ben écoute, non, moi je préfère rester à la maison, c'est ma manière à moi de croire que Dieu me protège. Et bien sûr, absolument. Et puis, il y a ceux qui disent, bien non, moi j'ai une autre expression de foi. Et tant que cela m'est autorisé, je continuerai à faire les choses comme avant, venir au culte, adorer le Seigneur. Et ça, c'est mon expression de foi. Bien sûr, en prenant compte de toutes les mesures de précaution qui nous sont recommandées, qui sont indispensables, cela va de soi. Mais je voulais juste vous expliquer pourquoi nous avons gardé ce lieu de culte ouvert. Mais il ne s'agit pas de juger ceux qui restent à la maison. Il ne s'agit pas de juger non plus ceux qui viennent au culte. Hein. Chacun est libre, ça c'est un des grands privilèges de la foi judéo-chrétienne. Alors, c'est marrant parce que dans cette période-là où on entend beaucoup de peur, d'après ce que je comprends, il y avait une personne qui, à la radio, était littéralement en pleurs parce qu'elle a peur. Et c'est horrible, parce que ça veut dire que cette personne ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que tout ce qui se passe et qui peut l'aider, qui peut la sortir de là. C'est vraiment arriver à un niveau de désespoir qui est dramatique, dramatique. Alors, de ce pupitre, eh bien, nous allons annoncer la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. C'est-à-dire que quand on ne sait pas comment vivre, quand on ne sait pas que faire, on peut toujours se tourner vers la parole de Dieu, qui est la lumière que Dieu nous donne dans toutes sortes de ténèbres. Et je crois qu'on va mettre sur le mode avion nos téléphones. Est-ce que vous voulez entendre ce que les médecins entendent ? Un malade à qui le médecin a dit « Si j'ai de la température, oui, 2, j'ai chaud et j'ai froid. Combien j'ai de tension, docteur ? Oh, pas beaucoup, hein, à peu près 300 euros par mois. Ah, au fait, docteur, J'aimerais aussi faire un ketchup complet, s'il vous plaît. Et je ne suis pas dans le domaine médical, mais j'imagine qu'ils doivent avoir bien des occasions de rire en entendant ce genre de choses-là. Alors, quand on se tourne vers Matthieu 24, ce chapitre-là est très important parce qu'il nous parle d'une saison sur laquelle nous sommes sur le bord d'entrée. Une saison dans laquelle le monde plus exactement va entrer. C'est, vous savez, toute l'histoire de l'humanité a été composée de dispensations, c'est-à-dire de périodes de temps à travers laquelle Dieu va parler aux personnes. Dieu va parler d'une manière à ceux qui ne croient pas en lui, mais il va quand même chercher à communiquer avec eux. Et notamment, on sait qu'à travers la création, Dieu parle à ceux qui ne le connaissent pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit poser des questions à une plante et prier devant un arbre. Il y a une différence entre la création et Dieu lui-même. Néanmoins, Dieu est celui qui a toujours cherché à communiquer avec les êtres humains. Et donc, il y a différentes périodes de temps. En ce qui nous concerne, eh bien, notre génération est presque à la fin d'une dispensation. Le monde chrétien ne parle pas de la fin du monde. Ça n'est pas chrétien. Cette idéologie n'est pas chrétienne. On parle de la fin d'une dispensation. Cela sous-entend qu'il y en a d'autres qui sont à venir. Mais il y a des choses qui vont caractériser chaque période de temps, chaque dispensation. Nous, la nôtre, elle est caractérisée par la grâce. Nous sommes sur le point d'entrer dans une autre dispensation. Mais c'est un petit peu comme le passage d'une dispensation, d'une période de temps à l'autre, n'est pas drastique du jour au lendemain. Paf, un jour il fait 20 degrés et le lendemain il fait moins 40. Ça n'est pas cela. Il y a des changements, il y a des signes qui changent. Comme par exemple, on est en train de changer là de période de temps. On ne va pas tarder à sortir de l'hiver et on voit donc les amandiers qui commencent à fleurir. On entend les oiseaux qui chantent beaucoup plus fort, les jours qui commencent à s'allonger, la chaleur qui commence à revenir, etc. Et on va entrer progressivement dans une période que l'on va appeler à un moment l'été. Mais après cette période d'été, il va y en avoir une autre. Et puis ça va être l'automne qui va être une période de transition qui va nous amener vers une autre période, va nous faire entrer vers une autre période qui va être celle de l'hiver, qui va être un contraste entre, et il va y avoir un contraste entre l'hiver et l'été. Dans Matthieu chapitre 24, il est question d'une dispensation, d'une période de temps à venir. Mais cela veut dire que nous allons commencer à voir les signes du changement. Et il est dit, versets 6 jusqu'à 8, il est dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». Alors on pourrait dire « Il y a toujours eu des guerres ». Oui, mais il y a des guerres qui ont beaucoup plus d'impact que d'autres et peut-être qu'ils se multiplient dans un contexte particulier, qui est celui du verset, non pas 6 seulement, mais 6 à 8. Et puis, il est dit, et là c'est Jésus qui parle, il dit « Gardez-vous d'être troublés ». Et le mot « troublé » ici, c'est « crier à haute voix », crier en faisant du bruit. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui panique, quelqu'un qui lâche nerveusement. Ce n'est pas quelqu'un qui entend parler de bruit de guerre et qui est... Il pâlit. Ce n'est même pas ça. C'est quelqu'un vraiment qui est grandement troublé, qui perd le contrôle de lui-même. Et la Bible nous dit, gardez-vous, c'est-à-dire, c'est au lecteur de se garder. Nous avons appris, et combien je bénis Dieu que nous ayons compris ce que veut dire la souveraineté de Dieu, parce que la souveraineté de Dieu ne dispense pas l'être humain d'être responsable. Et je vous encourage à réécouter ces messages. Vous vous souvenez de cela, hein? Et ici, la responsabilité de celui qui va lire est de se garder d'arriver à ce stade de panique-là. Quand on entend parler de guerre, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir un contexte civil, un contexte des peuples qui va être tel que non seulement les gens vont entendre parler de guerre, mais rien qu'au bruit, à la rumeur d'une guerre, il y a des gens qui vont paniquer. Et il est dit, car il faut que ces choses arrivent, c'est pas que Dieu est en train de les provoquer, mais tout cela est le résultat du choix qu'a fait le premier être humain, le premier couple d'êtres humains, qui a été de se séparer de Dieu. Dieu est celui qui ne pousse pas ces choses, qui ne fait pas ces choses. On parle de peste, de tremblement de terre, etc. Non, Dieu est celui qui a donné la terre à l'homme, mais l'homme a dit à Dieu, écoute, tu sais quoi, reste dans ton coin, c'est moi qui vais gérer les choses à ma manière. Et Dieu a dit, d'accord, vu que je t'ai donné à la terre à gérer, eh bien, je vais te laisser faire. Et l'état de notre terre, l'état des nations entre elles, eh bien, ça c'est la sagesse, le résultat de la sagesse humaine. Humaine. Donc, ici, le Seigneur dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Mais ce ne sera pas encore la fin. On dit, ah, tu vois, il est question de la fin du monde. Qui a dit qu'il était question de la fin du monde? Ça n'est pas écrit. Encore une fois, ça n'est pas une doctrine chrétienne. La fin de quoi? Ben, le mot fin, déjà, parle d'une série. La fin de quoi? Ben, ce ne sera pas la fin d'une série de guerres, de bruits de guerre. On vient juste de parler de cela. Il est dit une nation, ethnos, donc on entend parler ethnie. Un groupe s'élèvera contre une nation, ethnos, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux, quoi, des famines, c'est-à-dire rareté des récoltes, productions agricoles. Il y aura des pestilences, qui parlent de fléaux, peste. Ici, vous avez dans Luc 21, le mot n'est pas dans Matthieu 24, mais il est dans Luc 21, qui reprend exactement cela. Il y aura des pestilences, c'est-à-dire fléaux, peste, origine incertaine, et des tremblements de terre. Alors, il y a toujours eu des tremblements de terre, mais il y a une accélération et peut-être une plus forte densité des tremblements. Et tout cela ne sera que le commencement. Donc, on voit bien que ça n'est pas la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et la terre va entrer dans des douleurs comme celle d'un accouchement parce que le Messie doit revenir en ce qui concerne les chrétiens. Et je dis toujours à nos amis juifs que quand il viendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem, nous lui poserons la question s'il est déjà venu. Comme ça, au moins, c'est clair. Hein? Mais au milieu de tout cela, vous savez, depuis que l'être humain a choisi le premier couple d'êtres humains, le premier couple d'une race qui n'est pas celle des animaux, qui est différente de celle des anges et des autres créatures, il y a la race humaine qui est complètement différente des autres créatures. Mais nous avons été créés libres. Et le premier être humain a entraîné toute sa descendance, on peut dire, après lui, quand il a choisi de se séparer d'avec Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, individuellement, nous avons le choix d'accepter la réconciliation avec Dieu qui nous a été offerte à travers Jésus-Christ. De retrouver par la grâce la communion et la communication avec Dieu. Mais quand l'être humain a choisi de se séparer d'avec Dieu, la terre entière a été placée sous la malédiction. Ce qui veut dire que depuis, toutes les conséquences de cette séparation, comme la confusion, le manque de sagesse, la dépression, la maladie, toutes sortes de péchés, toutes ces choses sont sur terre. Dieu n'a pas retiré la malédiction de cette terre. Quand il a envoyé Jésus, il nous a permis de ne pas être impactés par la malédiction qui est déjà sur terre. Est-ce que vous comprenez la différence ? Donc, il y a vraiment, pour celui qui met sa foi en Dieu, il y a des promesses. Et au milieu de dans ce contexte de pandémie, eh bien, nous devons savoir quelles sont ces promesses. Donc, je vous propose de vous tourner vers le psaume 91. Est-ce que vous êtes content de trouver la lumière au milieu de toute cette, de tout ce chaos ? Hein ? Ah, moi, je suis très reconnaissante au Seigneur. Alors, je suis reconnaissante que nous soyons dans un pays qui a des moyens pratiques et naturels à sa disposition, hein, mais je suis aussi contente qu'en plus je puisse me tourner vers quelqu'un qui a fait ses preuves depuis le commencement du monde. Il est dit dans le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Voyez-vous, le choix de... Ici, il est question de celui, c'est-à-dire pas de tout le monde. Mais est-ce que le choix dépend de Dieu ? Est-ce que Dieu fait une sélection sur terre en disant, ben non, toi tu ne peux pas, je ne veux pas me réconcilier avec toi, toi en revanche, toi tu peux, toi non, toi... Non ! La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui. Le choix de croire, le choix d'avoir une relation avec Dieu ne dépend pas de Dieu, mais dépend de chaque être humain sur terre. Et ici encore, il est dit « celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut », c'est-à-dire celui qui souhaite un abri qui est le Très-Haut lui-même. Celui qui souhaite faire du Très-Haut son abri. Celui qui demeure. Demeurer veut dire bien rester, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a la bougeotte, qui n'arrête pas de... Non, ça veut dire quelqu'un qui dit, moi, Dieu, dans n'importe quelle circonstance, je vais en faire mon abri. Mais cela veut dire aussi quoi ? Assis, être assis. Alors, celui qui demeure assis sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre, si vous parlez de l'ombre, vous parlez de quoi ? Ben, vous parlez d'un champ énergétique qui est à notre disposition. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Mais dites-moi, qui est celui qui est assis ? La Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il est vivant. Historiquement, ça a été prouvé. Par expérience, nous l'avons tous aussi vécu, nous le savons. Mais qui encore est assis ? La Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6, que Jésus nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, nous a fait asseoir. C'est-à-dire que celui qui a reconnu que le sacrifice de Jésus à la croix est le prix qui a été payé par Dieu pour nous réconcilier avec lui, eh bien, celui-là a une invitation par le Seigneur dans cette réconciliation. La Bible nous dit, nous sommes assis. Donc, nous sommes déjà, en ayant la nature de Dieu, en étant enfant de Dieu, nous sommes déjà dans une zone de protection. Mais, encore faut-il y rester, je dirais, assis par la foi. Vous comprenez la différence ? C'est-à-dire qu'il y a un fait qui est réel, c'est que dans le monde spirituel, oui, nous avons cette position de fils de Dieu, mais c'est par la foi que nous l'occupons, je dirais, sur terre dans notre vie de tous les jours. Et il est dit que cette personne-là, je dis à l'Éternel, vous rappelez que l'apôtre Paul nous a appris, il dit « j'ai cru la foi ». La foi judéo-chrétienne, elle croit dans la parole de Dieu et elle parle ce qu'elle croit. Elle croit quoi ? on croit ce que Dieu dit et on parle. On parle ce qu'on croit de Dieu. On parle ce que Dieu a dit et que nous avons choisi de croire. Et donc, il est dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le psaume 46, verset 2 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, qui ne manque presque jamais, non, qui ne manque jamais quand ça, dans la détresse. Oui, c'est facile de croire que Dieu est celui qui nous protège quand tout va bien et que nous sommes en bonne santé et qu'il n'y a aucune menace du genre que nous connaissons maintenant. Mais qu'est-ce que je crois dans la détresse? Qu'est-ce que je crois quand j'entends parler d'une pandémie? Qu'est-ce que je crois quand j'entends parler du nombre de malades qui augmente? Et ensuite, il est dit, verset 3, « Car c'est lui qui, l'Éternel, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Si c'est ce qu'il a promis de faire, alors, mes amis, c'est ce que nous sommes appelés à parler. Oui, mon Dieu me délivre du filet de l'oiseleur. Il est dit, « De la peste, c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. » Verset 4, « Il te couvrira de ses plumes. » Vous comprenez que c'est une métaphore. Hein. « Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. » Tu ne craindras. Vous comprenez que là, ça c'est notre choix. Dans ce psaume-là, l'Éternel nous dit sa part. Il nous dit ce qu'il fait. Il nous dit ce qu'il nous promet qui sera à notre disposition dans la détresse. Voilà ce que chaque personne peut lire. Voilà ce que nous pouvons croire. Mais à nouveau, le chrétien n'est pas quelqu'un d'irresponsable. Ça n'est pas quelqu'un qui dit « ma foi consiste à dire « bon ben Dieu tu fais tout et moi je peux faire tout et n'importe quoi et toi tu seras responsable de tout ». Ça n'est pas la foi chrétienne. Le Seigneur nous dit à nous maintenant de choisir de croire, de craindre ou de ne pas craindre. Vous savez, quelqu'un a dit, et je l'ai entendu aux informations, le pire des virus n'est pas le coronavirus, mais la peur. La peur, c'est quelque chose de contagieux. La peur, c'est quelque chose qui passe d'une personne à l'autre. Je me demande combien de personnes, en entendant cette femme en larmes, la malheureuse, ont eu peur en entendant cette réaction. Encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas faire notre part. Oui, nous devons faire notre part. Dans le naturel, tous les moyens de prévention, nous devons le faire. Mais il y a des gens qui restent à la maison, qui se lavent les mains toutes les 5 minutes et qui le font par la peur. Quelquefois, il y a une forme de sagesse, je vais vous dire, hein, qui est une forme de peur qui est déguisée. C'est très subtil, très subtil. Mais là, le Seigneur nous encourage, c'est l'Éternel. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La flèche, ça peut être aujourd'hui, il y a des balles qui se perdent, il y a toutes sortes de choses. Et il y a des gens qui peuvent avoir peur. Et le Seigneur dit, alors encore une fois, je répète et je le répète, c'est on continue à vivre en respectant les limites de prévention, mais tout cela a pour but de nous aider à continuer à vivre sans la peur. Ni la peste, et le mot ici c'est peste, fléau, la maladie du bétail, j'ai trouvé ça intéressant en hébreu, la peste bovine qui marche dans les ténèbres. Il y a des choses qui se passent, on n'est même pas au courant. Ni la contagion qui frappe, qui ruine, qui dévaste en plein midi. Et le Seigneur nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dans une autre version, il est dit, mais ça ne s'approchera pas de toi. Ce qui veut dire que celui qui fait confiance en l'Éternel et permet à l'Éternel de faire sa part. Celui qui nous garde, c'est l'Éternel. La raison pour laquelle nous avons la foi, et oui, il y a des gens qui diront « c'est déraisonnable ». Ben non, ça n'est pas déraisonnable de croire en Dieu. Ça n'est pas déraisonnable de croire en Dieu. Et l'histoire l'a prouvé à travers les siècles. Mais la foi, c'est une disposition de cœur. Vous pouvez avoir une personne qui se lave les mains par la peur et une autre qui se lave les mains par la foi, tout en mettant sa foi en Dieu, en disant « Seigneur, je fais ma part, mais il y a une chose que je sais, c'est que toi, tu vas faire la tienne. » La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti pour rien. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille pour rien. Et ici, oui, il dit, alors le plus difficile, c'est que s'il y a des personnes qui tombent, c'est de ne pas laisser la peur venir sur nous. Parce qu'il y a dit, oui, il y a des personnes qui peuvent tomber à cause de toi pour X raisons, peu importe. Là n'est pas la question, à ton côté. Mais il dit, ne laisse pas la peur venir sur toi. Sans compter que la peur affaiblit notre système immunitaire. Et il est dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, cela? Qu'est-ce que ça veut dire quand il est dit, tu verras la rétribution des méchants? Non, ça veut simplement dire, eh bien, tu verras la différence en celui qui dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, et celui qui, par humilité, dit, bah, tu sais quoi, moi, je réalise que ma vie, je ne peux pas tout contrôler, et je réalise j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui est supérieur, qui est mon créateur, qui a de bonnes intentions à mon égard, et qui veut me protéger, il me demande de lui faire confiance. Et dit, tu verras la différence entre celui qui ne veut pas me faire confiance, c'est-à-dire que la confiance que nous plaçons en Dieu est un aimant qui va nous attirer sa protection. Au milieu de tout cela, parce qu'on l'a compris, tout à l'heure quand j'ai lu, je ne sais pas si vous l'aviez vu, et peut-être dans Matthieu 24, non, et dans Luc 21, oui, que pestilence est au pluriel. Des guerres, des bruits de guerre, mais au milieu de cela, vous comprenez pourquoi les chrétiens ne peuvent pas manipuler les gens à avoir la foi? Parce que chacun est libre, et ça n'est pas la fin du monde, je tiens à le préciser, parce que ça n'est pas le langage biblique, ça n'est pas le langage du chrétien. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette dispensation, et dans toutes les autres dispensations, nous avons eu un message sur les générations. Et qu'est-ce que nous avons découvert? Que dans toutes les générations, Dieu a montré sa fidélité. Dieu a montré sa fidélité. Il est dit, verset 9, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. » Il est dit, « Tu fais du Très-Haut ta retraite. » Verset 10, 11, « Aucun malheur, mal, ce qui est déplaisant ne t'arrivera. Aucun fléau, accident vasculaire, cérébral, peste, maladie, ça je vous donne l'essence de ce qui est dans ce mot hébreu, n'approchera de ta tente. » Dans Matthieu chapitre 5, verset 45, il y a une précision. « Votre Père qui est dans les cieux est bon, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Vous avez remarqué que notre beau soleil de la Côte d'Azur ne s'est pas seulement levé sur la maison des chrétiens. Il s'est levé même sur ceux qui ne croient pas en Dieu, même sur ceux qui blasphèment Dieu. Ça, c'est une manière à Dieu de montrer sa bonté. Toutes les bonnes choses qui sont universelles, Dieu montre sa bonté. Il est dit, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Mais écoutez bien, quand il s'agit de protéger les siens, là, il y a une distinction parce que Dieu protégera celui qui va exercer sa foi en lui. Et il y a suffisamment de textes bibliques, quand il est dit par exemple dans le pays de Gosen, vous savez que la Bible nous dit que les Écritures, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, Josué, etc., tous les prophètes, et les exemples au temps de Jésus, des apôtres, des premiers disciples, leur vie nous ont été données pour nous servir d'exemple. Donc on a à apprendre à quelque chose. On n'est pas, vous savez, nous, notre génération n'est pas en train de découvrir Dieu. Ça, ce serait presque se le fabriquer. On découvre Dieu qui s'est révélé à travers toutes les générations, ce qui nous permet d'asseoir une foi qui est véritable, qui est véridique. Mais dans, on voit par exemple que quand les Hébreux étaient en Égypte, ils sont d'abord allés en Égypte parce qu'il y avait une famine dans le pays de Canaan. Et donc, le Seigneur avait pourvu une solution et ils ont été en Égypte. Le Pharaon a changé et le Pharaon ayant changé, eh bien, sa politique a changé. Et il a fait preuve d'antisémitisme et il a décidé que tous les esclaves, et notamment ici c'était les Hébreux, eh bien, il leur rendrait la vie dure, en espérant, à vrai dire, s'en débarrasser. Les Hébreux ont crié à Dieu et Dieu leur a suscité un libérateur qui a été Moïse. Mais en attendant, à chaque fois que Moïse s'est présenté devant ce pharaon, il a dit, tu sais, laisse aller, Dieu te dit, laisse aller mon peuple. Et il a donné toutes les raisons. Et Pharaon, à chaque fois, a dit non. Et là, c'était une période de jugement. Donc, les jugements se sont abattus sous forme de plaies. Et on voit ici, par exemple, dans Exode chapitre 8, verset 22, les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches. Alors, c'était des insectes venimeux. Et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen ou de Goshen, comme vous voulez, où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches. Et il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Vous comprenez que le contexte dans lequel je vous lis ce message, je ne suis pas en train de dire que Dieu fera une distinction entre EK21 et le reste de la planète. Vous comprenez cela ? Juste au cas où, c'est horrible. Non, entre ceux qui mettent leur confiance en Dieu et ceux qui disent, moi, tu sais, je ne veux pas de Dieu dans ma vie, j'en ai rien à faire. Dieu est quelqu'un qui cherche à être bon envers les gens. Encore une fois, la malédiction est sur cette planète, mais le salut est offert à chaque personne qui souhaite le recevoir. Vous comprenez cela, hein? Et par exemple, dans Exode 9, 24, il est dit « Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme une nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen. » Où avaient été reclus les Israélites, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'il y a une frontière qui a été mise entre les territoires d'Égypte. Si quelqu'un se trouvait d'un côté du territoire, il n'y avait pas un grêlon qui était tombé. Si quelqu'un franchissait tout de suite la frontière, le pays était dévasté. Ce que je veux dire, c'est que Dieu est bien capable de protéger celui qui met sa confiance en lui. C'est ce que je veux dire. Encore une fois, c'est une disposition de cœur, mais la Bible nous dit que la foi vient en entendant. La foi, c'est quoi ? On ne va pas se le compliquer. La foi, c'est avoir confiance en disant, « Mon Dieu, je lis ici que tu promets de me protéger dans les calamités. » Eh bien, Seigneur, au lieu de céder à la panique, au lieu d'ajouter à ce qui existe déjà, je vais garder l'espoir en toi. Oui, je vais faire ma part, mais je vais garder la foi en toi. Et je vais croire qu'au milieu de tout cela, tu me protèges, moi, ma famille, et puis tous ceux pour lesquels je vais prier, des voisins, etc. Maintenant, il est certain qu'on va encourager tous ceux pour lesquels on prie à faire confiance en Dieu. On peut prier pour quelqu'un, mais si cette personne-là a choisi de ne pas faire sa part, vous savez, ça va être difficile à Dieu de la protéger. Le but, c'est oui, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il a choisi de laisser l'être humain libre, pas le croyant, l'être humain libre. Libre de quoi ? Libre de se dire, existe-t-il un Dieu ? La Bible nous dit que Dieu se révèle même à travers la création. Et quand nous découvrons que Dieu est bon, alors nous avons même là encore le choix de dire, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que j'entrevois mon futur avec Dieu ? Est-ce que mon Dieu est quelqu'un sur qui je ne peux pas m'appuyer ? Ou est-il quelqu'un qui reste avec moi dans la tempête ? Est-ce que mon Dieu est quelqu'un qui va me sortir de là économiquement parlant ? Parce qu'il y a toutes les autres conséquences. Financièrement parlant, est-ce que j'ai raison de lui faire confiance ? Ou au contraire, eh bien, j'ai raison de douter ? Il faut qu'on... C'est là la réflexion. La réflexion est, qui est Dieu ? Comment se révèle-t-il dans la parole ? Et en fonction de ce que je comprends de lui dans la parole, quel va être mon choix ? Et la Bible nous dit que lui, en revanche, il est bien capable de faire une distinction entre celui... Vous savez que, et je l'ai appris dernièrement, c'est que Dieu se révèle dans la parole de Dieu, ça on le sait, par différents noms, hein. Et notamment, par exemple, il y a le mot Elohim, il y a le mot Yahvé, Jéhovah. Alors Jéhovah, c'est un nom qu'un groupe s'est approprié et y a collé certaines doctrines. Mais le mot Jéhovah, c'est un des noms de la Bible, tout simplement. Et il se révèle comme Jéhovah Tsikenu, celui qui est notre justice, le Dieu qui existe par lui-même et qui est notre justice. Il se révèle comme étant notamment Jéhovah Rapha, c'est-à-dire celui qui guérit, le Dieu qui existe par lui-même et qui guérit. Encore une fois, Jéhovah, c'est un mot biblique, donc voilà. C'est le propre de certains groupes, c'est de s'attribuer certaines vérités bibliques, mais ça c'est encore autre chose. En revanche, Rapha veut dire qui guérit. Et la racine de guérir, c'est quoi ? C'est relaxer. Oui, c'est excellent. Et c'est beaucoup plus facile de laisser Dieu nous guérir ou nous maintenir en bonne santé quand on se relaxe. Se relaxe comment ? Parce qu'on a la foi en lui. Est-ce que vous êtes avec moi ? Et encore, on voit que non seulement Dieu a fait une distinction entre ceux qui mettent leur foi et lui. Et vous savez, il y a probablement, hein, tous les Israélites étaient, tous les Hébreux étaient reclus dans le pays de Goshen, sur le territoire de Goshen en Égypte, mais il y en a qui ont certainement exercé leur libre arbitre et qui ont dû se dire, eh bien non, moi je refuse de rester là, vous savez quoi, vous dites cela, vous dites, non mais attends, on est esclave depuis je ne sais combien d'années, tu es en train de me dire que tout d'un coup tout va bien se passer, on va s'en sortir, ben non, moi je vais avec les Égyptiens parce qu'au moins eux, ils ont une grande armée, eux au moins, ben tant pis, j'aurai au moins des oignons à manger, j'aurai au moins encore des pommes de terre à manger, j'aurai au moins du couscous, du boulgour et tout ce que vous voulez à manger, moi je vais. Et il y a certainement des Hébreux qui sont sortis de ce territoire-là, parce qu'ils étaient libres, et qui sont entrés dans d'autres territoires jusqu'au moment où ces calamités-là, de l'époque, se sont manifestées en Égypte. Mais Dieu a fait la distinction, non seulement, et cela, ça, ce verset, je m'en souviens, j'aime me le rappeler, il est dit « Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. » On ne se voyait pas les uns les autres. Donc, ça n'est pas, par exemple, quand il y a pratiquement plus de luminosité à cause du quartier de la Lune. Non, on ne se voyait plus. Et puis la Bible nous dit que c'était des épaisses ténèbres. C'est-à-dire que celui qui voulait trouver la chaise à côté de lui était vraiment obligé d'aller à tâtons parce qu'il y avait l'épaisseur des ténèbres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Je ne sais pas si vous réalisez, même point de vue hygiénique, ce que ça donne. Non, mais c'était horrible ce qui se passait là. Le mot suivant, c'est « mais ». Quelqu'un dit « mais ». Mais. Mais. Il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Mais il y avait. Encore une fois, Dieu va honorer la foi de celui qui choisit de lui faire confiance où qu'il se trouve. Qu'il se trouve à la maison, qu'il se trouve au travail, qu'il se trouve dans la rue. Peu importe, peu importe. Celui qui crie à l'Éternel, qui dit « Seigneur, Seigneur, garde-moi, garde ma famille », la Bible nous dit que Dieu va honorer sa foi. Alors vous dites « Oui, mais il y a la fameuse histoire de Job ». Tu sais, Job, la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui honorait Dieu, c'est quelqu'un qui faisait des sacrifices à Dieu, c'est quelqu'un, tout allait pour lui, il prospérait, il avait ses enfants, il avait sa femme, tout allait pour lui. Et puis un jour, eh bien... Il a tout perdu, tout a été, il a perdu la santé, il a perdu ses enfants, sa femme s'est rebellée, était en colère, il a poussé à se détourner de Dieu, etc. On pourrait dire, tu vois que, encore une fois, il y a toujours des versets qui vont nous donner des explications. Et je vais simplement vous le lire, hein, mais il est écrit dans Job chapitre 3 verset 25, il a dit « ce que je crains ». C'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors que, au verset 1, il était dit de Dieu, « Tu le protèges de tous côtés, comme avec une clôture. » Une autre version dit, « N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de tous ses biens ?» Une autre version dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Donc, on voit que oui, Dieu avait fait sa part. Dieu avait protégé Job. Dieu avait été fidèle à lui-même. Mais, malgré ce que Dieu avait fait, Job a eu peur. C'est la peur, et il l'a dit lui-même, il dit, ce que j'ai craint, ce que j'ai redouté, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Vous savez, la peur attire ce qu'on ne veut pas autant que la foi attire les bénédictions de Dieu. La peur est un aimant. Et il faut se poser la question. La peur, c'est croire que ce que j'entends de doute, d'incrédulité, de désespoir va arriver. Avoir peur, c'est croire ce qui va arriver de mal. Et on peut entendre tous les problèmes qui existent. Nous avons un choix de dire, mais j'ai des promesses de la part de quelqu'un qui est fidèle, qui a prouvé, Dieu a prouvé sa fidélité. Et maintenant, qu'est-ce que je vais croire ? Quel va être mon choix? Il est dit dans Hébreux 1, verset 11, simplement je vous le lis, que les anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais non seulement nous avons des promesses qui sont écrites dans la parole qui a fait ses preuves, la Bible nous dit que Dieu nous annonce dès le commencement la fin. Le Seigneur nous a fait des promesses, il nous a dit comment seraient les temps, comment seraient les différentes dispensations. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui cache les choses, mais en même temps, il y a des promesses qu'il donne, qu'il rend disponible. Quelquefois, on critique les chrétiens parce qu'ils cherchent à partager la foi dans le Dieu vivant. Mais je vous assure qu'il y en a bien un qui doit être bien content d'avoir entendu les promesses de Dieu. Les promesses d'un Dieu qui est bon, qui est fidèle. Ce qui se passe n'est pas le produit, le travail, l'intention de Dieu. Mais au milieu de tout ce qui se passe, Dieu a des promesses et c'est à chacun de dire qu'est-ce que je vais croire. Qui est celui qui a le dernier mot dans cette affaire? Amen. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'il dit, c'est quelque chose qui nous invite à expérimenter la fidélité de Dieu. Nous savons que Jésus nous a appris. Alors, ce que nous allons faire, c'est nous allons libérer maintenant les internautes, à moins qu'ils veuillent peut-être avec nous prendre la Sainte Cène, qu'ils aillent chercher du pain et du vin chez eux, parce que nous allons prendre, c'est possible ou pas? On peut continuer? Oui, faisons-le, parce que peut-être maintenant, s'il y a des personnes qui souhaitent ne pas le faire, ils sont tout à fait possibles. C'est tout à fait possible, mais Jésus nous a donné, je vais inviter à ce que les éléments soient servis, les choses sont faites un peu différemment. Donc on va se laisser, attendez, on va, ne bougez pas, on va faire passer les plateaux. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, parce que sinon, comment on va s'y prendre? Alors, ça va être vous servi, hein, une personne avec des gants va vous servir, mais il faut de l'espace entre les gens. Hein. D'accord, donc on va procéder comme ça. Vous allez sortir de ce côté-là, et la caméra, oui, revenir vers là. Donc, on va laisser suffisamment d'espace entre nous et chacun va être servi. Les éléments ont été préparés par des personnes qui avaient des gants également. Le Seigneur Jésus nous l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il nous a invités à nous remémorer la puissance du sacrifice de Jésus. Et il explique pourquoi ici. Il dit ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Le pain n'est pas le corps de Jésus, mais représente le corps de Jésus. Et dit, faites ceci en mémoire de moi. Il y a quelque chose que l'on doit se rappeler concernant cet élément-là. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de foi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Des milliers de chrétiens aujourd'hui prennent le pain, prennent le vin. S'il vous plaît. Prennent le pain, Noé, mets-toi là, s'il te plaît, merci. Prennent le pain et prennent le vin. Alors, le pain se trouve dans le premier verre, hein, dessous. Donc, vous soulèverez le verre avec du vin et vous trouverez le pain. Maintenant, le Seigneur nous dit quoi ? Il nous dit que quand il est allé sur la croix, la Bible nous dit qu'il s'est chargé de nos meurtrissures, de nos maladies quand il a été meurtri. Et la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. La guérison et la santé, bien évidemment, sont légalement à la disposition de celui qui met sa foi en Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on ne prend pas de médicaments, bien évidemment. Cela ne veut pas dire encore une fois qu'on ne fait pas notre part. Mais en toute chose, il faut savoir que Dieu nous veut en bonne santé et que Dieu nous veut guéri pour celui qui serait malade. Et puis, pourquoi le sang ? Pourquoi le sang est représenté par le jus de la vigne ? Pourquoi ? Parce que le péché a fait rentrer la malédiction sur cette terre. Et il fallait qu'il y ait le pardon. Aujourd'hui, Dieu n'est en colère contre personne. Le péché de chaque individu a été payé à la croix. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les conséquences. Si je choisis de faire du tort à mes voisins, eh bien, il y aura des conséquences, ils vont s'en prendre à moi. Et bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, vis-à-vis de Dieu, Dieu ne nous fait pas payer pour nos péchés. C'est-à-dire que Dieu est quelqu'un qui ne nous condamne pas. Dieu est quelqu'un qui... vous savez, le péché est quelque chose qui maintient dans l'infériorité, qui maintient l'individu dans un sentiment de condamnation. Quelqu'un qui a toujours l'impression qu'il n'est jamais à la hauteur. Il n'est pas bien. Il n'y a rien pour lui. Et le Seigneur nous dit, non seulement à la croix, j'ai porté les maladies, afin que légalement vous puissiez rester en bonne santé et être guéri. Mais il y a plus que cela, c'est que j'ai payé pour votre péché. Personne n'est en dette contre Dieu. Avec Dieu, je dirais. Personne n'a cette dette à payer. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a la profusion du pardon. Mais quelquefois, on a tendance, parce que, bon, bah, on a accepté Christ dans notre vie, mais ça ne veut pas dire qu'on fait encore tout bien. Et quelquefois, il y a des chrétiens qui se sentent condamnés, ils disent, oui, mais j'ai fait ça. Ils ont besoin de se rappeler, hey, le Seigneur t'a pardonné. Maintenant, demande-lui de t'aider à ne plus recommencer. Amen. Et c'est ces éléments qui nous ont été donnés afin que jamais nous n'oublions la puissance de la croix. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler, spécialement aujourd'hui. À la croix, Dieu a prouvé sa fidélité. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te remercier pour ces éléments qui nous permettent de nous rappeler qui tu es, ce que tu as fait pour les êtres humains. Seigneur, nous choisissons de mettre notre confiance en nous. Et tu es celui qui également honore la foi de ceux qui regardent par Internet. Où que nous soyons, tu es celui qui nous garde. Dans le nom de Jésus, nous te remercions pour le sacrifice de Jésus à la croix. Nous croyons que tu nous as mis en règle avec toi-même, que nous n'avons pas à payer pour nos péchés. Et nous croyons que tu es celui qui nous maintient en bonne santé. Tu es celui qui nous guérit. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc si vous souhaitez, eh bien, approchez-vous et gardons la distance au milieu de nous. Les premiers rangs, allez-y, premiers, on va faire cela. Vous prenez votre verre, vous retournez. On vous sert, hein. Vous retournez à votre place. On vous sert. Retournez à votre place. Avancez-vous vers Noé également. Inversez-vous vers Noé. On n'est pas habitué, donc on tâtonne encore un peu. Approchez-vous. Trois personnes peuvent vous servir. Ok, chacun retourne à sa place. C'est la même chose, hein. Quel que soit le plateau, c'est la même chose. Gloire à Dieu. Retournons à notre place. Regardez, avancez jusque-là. Tiens, tu veux bien m'en donner un, s'il te plaît. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chacun est libre, hein, de prendre, de ne pas prendre. Ça, c'est vraiment, encore une fois, chacun est libre. Croyez-vous que le Seigneur nous garde ? Croyez-vous que le Seigneur nous garde ? Oui ? Alors, c'est ce que nous pouvons exprimer par la foi pendant que nous tenons ces éléments à la main. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tenez, allez vous servir. Est-ce que tout le monde est servi ? À la sono, Martin est servi, derrière la caméra, tout le monde est servi, etc. Oui, est-ce que... Tiens, tu... Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est bon ? Est-ce que quelqu'un peut me dire, par ces éléments, Dieu me rappelle qu'il me garde. Dieu me rappelle qu'il a payé le prix pour que je ne sois plus sous la malédiction. Pour que je ne sois plus sous la malédiction. Et aujourd'hui, je vis avec la bénédiction de Dieu. Je choisis de croire dans les promesses de mon Dieu. Je choisis de croire en sa protection. Les anges de Dieu me gardent. Ils sont envoyés vers moi pour me protéger, pour que je ne trébuche pas, pour qu'aucun fléau ne s'approche de ma tente. Voilà ce que je crois. Et tous ceux qui ont besoin de guérison dans le nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris où que vous soyez, où que vous êtes maintenant. Soyez guéris par les meurtrissures de Jésus. Mangeons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Buvons ensemble. Et le sang de l'agneau nous protège. Le sang de l'agneau nous protège. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, avant de terminer, alors ce que je vais faire, c'est je vais dire ceci en vous quittant, et nous prierons ensuite pour tous ces amis que nous accueillons au milieu de nous. Que l'Éternel, ça c'est la bénédiction qui a été donnée, je vous la lis, que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant, que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Je dis à très bientôt à nos amis internautes.